Radio Okapi.
Le journal Noëlla Luzitu Kabambi. Le calme revient progressivement depuis le début de cet après-midi dans les camps de déplacés situés à Mugunga, dans l'ouest de la ville de Goma, au nord Kivu. Depuis tôt ce matin, des affrontements dans la région de Rusayo, dans le parc des Virunga, territoire de Nyiragongo, ont fait paniquer ces déplacés de guerre vivant dans les différents camps. La formation des élus nationaux par des experts de la Cour des comptes, c'est la demande du président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe l'a dit hier durant l'échange qu'il a eu avec les animateurs de cette institution. C'est pour permettre aux députés de mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. L'invité de Radio Okapi cet après-midi, c'est Augustin Musambu Mukalai. Il est le chef de l'établissement scolaire Loyé et de Kalemie, province du Tanganyika. Il va parler de l'impact du comité de paix installé dans son école par l'UNICEF et ses partenaires. Bonjour à tous. Accalmie relative ce jeudi après-midi dans les camps de déplacés situés à Mugunga, dans l'ouest de la ville de Goma, au nord Kivu. Ce matin, il y a eu une grosse panique parmi ces déplacés de guerre à la suite des affrontements à l'arme lourde et légère signalés dans la région de Rusayo, dans le parc de Virunga, dans le territoire de Nyiragongo. D'autres détails avec vous, grâce à Hamzati.
D'après plusieurs sources, ces affrontements ont opposé les FRDC, les Wazalendo et les FDLR. Les ménages des déplacés qui ont fui ce matin les détonations commencent à regagner timidement leurs abris, affirme un chef de quartier. Le porte-parole de l'armée n'a toujours pas communiqué sur cette situation qui sème la confusion dans la région. Cependant, les autorités locales et la société civile affirment que c'est le troisième incident qui oppose l'armée aux FDLR et les Wazalendo dans cette partie qui surplombe les camps des déplacés et qui les expose à beaucoup de risques, déplore un acteur de la société civile locale.
Pendant ce temps, l'armée rwandaise et le 1-23 sont accusés d'avoir bombardé sans distinction des camps de déplacés et d'autres régions densément peuplées autour de Goma au cours de cette année 2024. Ce qu'indique en tout cas un rapport de l'ONG internationale de droits de l'homme, Human Rights Watch, rapport rendu public hier mercredi. Le Rwanda et le Congo devraient mettre fin à leur soutien aux groupes armés abusifs, respecter leurs obligations en matière de droits de la guerre et permettre un accès sans entrave à l'aide humanitaire, lance cette ONG de droits de l'homme, Sifamaguru.
Ce rapport de Human Rights Watch pointe du doigt également les FARDC et les milices alliées d'avoir augmenté les risques aux populations déplacées dans les camps en déployant de l'artillerie à proximité. Les deux forces, à savoir la M23 RDF et les FARDC alliés, ont tué et violé les habitants dans les sites des déplacés et ont entravé l'acheminement de l'aide et ont commis d'autres abus, souligne Human Rights Watch. En outre, le M23 RDF a étendu son contrôle sur plusieurs localités du Nord Kivu, ce qui représente des gains de plus en plus importants de ces groupes armés depuis sa résurgence en 2021. Alors que le conflit entre les forces rwandaises et congolaises et leurs milices alliées s'est rapproché de Goma, les habitants de la région et plus d'un demi-million de personnes déplacées risquent de plus en plus d'être pris dans le combat et de se voir refuser de l'aide humanitaire, a déclaré Clémentine Mantjoy, chercheuse principale sur l'Afrique à Human Rights Watch. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Et puis revenons sur le discours du chef de l'État hier à la tribune des Nations Unies avec cette réaction de l'ASBL Congo Action pour une diplomatie agissante CADA. Cet ASBL salue ce discours du président congolais. Dans un communiqué publié ce jeudi, le coordonnateur de cette structure demande en outre au chef de l'État de poursuivre son plaidoyer pour obtenir des sanctions contre le Rwanda et le M23. Par ailleurs, Eric Kamba fustige certaines voix émanant des ONG de défense des droits humains qui se sont prononcées contre la candidature de la RDC au Conseil des Nations Unies en insinuant que voter pour la RDC enverrait un très mauvais signal pour un pays qui est loin d'être exemplaire en matière de droits humains. Kada estime que la RDC fournit déjà plusieurs efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme et mérite amplement de siéger au Conseil des droits humains de l'ONU. On écoute Eric Kamba.
CADA, pour sa part, estime que les États membres de l'ONU doivent voter en faveur de la RDC lors des élections du Conseil des droits humains pour deux raisons suivantes. La candidature de la RDC se trouve déjà être appuyée par le groupe de 13 pays africains du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La RDC devrait donc faire son entrée au sein de cette institution. La RDC ambitionne d'être à la fois membre du Conseil des droits de l'homme et membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'actuelle session de l'Assemblée générale de l'ONU est une occasion ou jamais pour la RDC de faire tourner à plein régime la task force chargée de la stratégie des plaidoyers et des lobbying auprès des autres États membres de l'ONU pour les gagner à sa cause.
Nous le disions dans le sommaire, les experts de la Cour des comptes sont appelés à renforcer les capacités des députés nationaux en matière d'élaboration et d'exécution du budget de l'État ainsi que sur le contrôle des dépenses publiques. L'appel vient du président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe a échangé hier avec les animateurs de la Cour des comptes conduits par le premier président Jimmy Munganga Ngwaka. D'après le premier président de la Cour des comptes, cet exercice permettra aux élus nationaux d'être suffisamment outillés en matière d'audit pour mener objectivement leur mission de contrôle du gouvernement. Michel Kifindangoy.
Afin de permettre aux députés nationaux d'exercer un contrôle efficace de la gouvernance publique, les experts de la Cour des comptes s'apprêtent à former les élus du peuple sur demande du président Vital Kamerhe. En quoi va consister cette formation? Jimmy Munganga, premier président de cette cour.
La Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'exécution de la loi des finances. Nous sommes le bras séculier du Parlement dans ce contrôle-là. Parce qu'à la Cour des comptes, on trouve des techniciens. À l'Assemblée nationale, les députés ne sont pas tous spécialistes en finances publiques. Mais à la Cour des comptes, on n'y trouve que des experts en finances publiques. La Cour a été invitée par l'honorable président de l'Assemblée nationale. Nos échanges ont porté sur... j'ai informé l'honorable président que la Cour des comptes est en train de faire ce contrôle-là incessamment. Et son rapport sera prêt et déposé à l'Assemblée nationale.
Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a invité la Cour des comptes à travailler de commun accord avec la commission ECOFIN pour préparer ces différentes séances de renforcement de capacités. Vital Kamerhe a cependant promis son implication pour veiller aux intérêts de la Cour des comptes dans les discussions sur la loi des finances 2025 qu'ils vont examiner bientôt.
Dans le Lualaba, la société civile de cette province réagit à la décision du département de travail des États-Unis d'Amérique d'ajouter le cobalt de la RDC sur la liste 2024 de biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. La société civile de la province du Lualaba dit prendre acte de cette décision, mais elle remet tout de même en doute l'aspect relatif au travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt en RDC. Dans un communiqué publié hier, la société civile de la province du Lualaba, à travers la plateforme dénommée « Comprendre et agir dans le secteur minier, industriel et artisanal Casmia », invite le gouvernement congolais à prendre des mesures urgentes pour améliorer les conditions d'exploitation minière et sauver ainsi son cobalt des risques qu'il court après cette décision américaine. On écoute Shadrach Moukad, coordonnateur national de la plateforme Casmia, au micro de Jean Gandou.
Souvent, nous considérons différents rapports qui sont envoyés sur la présence des enfants que ce sont des rapports qui ne reflètent pas la vraie réalité. Mais quant au travail, à l'exploitation, au non-respect des droits des travailleurs, aux travaux forcés soumis aux agents dans les entreprises minières, c'est une réalité parce que la société civile a toujours décrié ces traitements des travailleurs dans les sociétés, particulièrement les sociétés détenues par des Chinois. Il revient à l'État congolais de s'investir totalement pour que la loi sur l'emploi, le travail et la prévoyance sociale soient respectées par toutes ces entreprises. Il faudrait qu'un travail des titans qui fait respecter les droits des Congolais soit fait à travers le ministère de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Lorsque nous y mettons, nous aussi, la sensibilisation pour que les enfants ne se retrouvent pas dans la chaîne d'approvisionnement en cobalt, le cobalt de la RDC sera retiré de cette liste. Et nous devons tous ensemble, et l'État, et les opérateurs miniers, et nous, la société civile, travailler des concerts pour que nous puissions améliorer les conditions de travail pour l'intérêt de notre économie nationale.
L'Ordre national des pharmaciens de la RDC dénonce la circulation des médicaments inappropriés. Ces produits pharmaceutiques de mauvaise qualité pullulent sur le marché de tout le territoire national. Déclaration faite hier en marge de la célébration de la Journée internationale des pharmaciens. À Kinshasa, la journée a été célébrée officiellement à l'Institut national des recherches biomédicales INRB sous le thème « Pharmaciens au service de santé universelle ». À l'occasion, les pharmaciens congolais disent non à la politisation régions de ce secteur stratégique pour la réussite du programme santé universelle du chef de l'État. Il plaide aussi pour l'éradication de tous les moutons noirs de la profession. On écoute Dr Laura Matonde, responsable d'Imex Pharma, au micro de Michel Kifindangoy.
L'Ordre des pharmaciens de la République démocratique du Congo a ressorti les thèmes pharmaciens au service de la couverture santé universelle. Nous dirons que la place du pharmacien est très très importante parce qu'il n'y a eu jamais une guérison sans médicaments. Au regard de la situation politico de notre pays, les pharmaciens sont dans les oubliettes, messieurs les journalistes, et ce qui occasionne la mauvaise qualité des médicaments. Et voilà pourquoi nous haussons les tons en cette journée internationale des pharmaciens pour réclamer, trop c'est trop, la population congolaise que nous sommes, souffrant avec les médicaments de mauvaise qualité et demandant cette liberté de la profession des pharmaciens pour bien exercer notre tâche afin de sauver les vies. Ceux qui veulent manipuler ces médicaments, nous leur demandons que la faculté de pharmacie est ouverte à tous.
Dans la province du Maniema, installation ce jeudi du comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale. À l'occasion de la célébration aujourd'hui de la journée de la contraception, ce comité de 5 membres a pour mission de faire la promotion de la planification familiale en faisant des plaidoyers auprès des autorités et des partenaires pour cette fin. Docteur Anne-Marie Ntumba, directeur du programme national de la santé de la reproduction à l'UNFPI, et avec Florence Kizalunga.
Le comité national attend que le comité provincial se mette à l'œuvre pour pouvoir accompagner la population de la province à connaître leurs droits sexuels et reproductifs, à les utiliser, à pouvoir choisir les méthodes de contraception modernes qu'ils veulent, parce que quand on a bien fait sa contraception, on ne va plus être exposé aux problèmes de mortalité maternelle pour des causes évitables. Une femme ne doit pas mourir pour donner la vie. Un enfant qui vient au monde ne vient pas au monde pour mourir. La mortalité néonatale et maternelles sont très élevées dans la province. Alors, comme la planification familiale, c'est une des stratégies qui aide à réduire jusqu'à 30%, c'est pour ça qu'on a pensé, on a discuté et les autorités de la province sont bien d'accord d'accompagner, qu'ils vont faire le nécessaire pour que la population connaisse ses droits, qu'ils donnent aussi le peu de moyens qu'ils peuvent donner et le gouvernement national aussi donne. Et les partenaires qui nous accompagnent dans cette matière-là des droits sexuels et reproductifs, le Fonds des Nations Unies pour la population, le SANRU et les autres partenaires vont aider aussi à accompagner. Parce que les partenaires sont toujours encouragés quand ils voient que le gouvernement lui-même met la main à la pâte et les partenaires vont faire ça de cœur joie.
Actualité internationale. Alors que le conflit au Soudan était au cœur des discussions hier à l'Assemblée générale de l'ONU, avec un nouvel appel à l'arrêt des combats, des affrontements intenses ont éclaté tôt ce jeudi matin dans la capitale Khartoum entre l'armée et les paramilitaires. Notez qu'une guerre oppose depuis le 15 avril de l'année dernière l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des FSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Madan. Les combats ont fait des dizaines de milliers de morts, plus de 10 millions de déplacés et près de 26 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, font face à une insécurité alimentaire sévère, selon l'ONU.
L'invité.
Notre invité s'appelle Augustin Moussamba Moukalaï. Il est le chef de l'établissement scolaire Le Yeye, situé à 18 km de la ville de Kalemie, province du Tanganyika. Il revient ici sur l'impact du comité de paix qui a été installé dans son école par l'UNICEF et ses partenaires. Ce comité de paix a pour objectif d'intégrer la notion de la paix et de promouvoir la cohésion entre les élèves Toa et les élèves Bantou qui étudient ensemble dans cette école. Augustin Moussambou Moukalaï s'entretient avec Paulin Mounanga.
Monsieur Augustin Moussambou Moukalaï, bonjour.
Bonjour Monsieur Paulin Mounanga.
Comment tout d'abord interprétez-vous les concepts de paix et de résolution des conflits dans votre programme scolaire?
Les concepts de paix dans notre école vraiment nous a favorisé dans beaucoup de choses parce que mon école d'ailleurs enregistre au moins deux tribus, les Toa et les Bantou. Vous savez, avec les conflits des Toa et les Bantou, il y avait un petit souci au niveau de l'école. Les Bantou qui ne voulaient pas étudier ensemble avec les Toa, en disant qu'ils ne sont pas de même race, ce sont les Toa qui les a tués, intimidés, prendre leur bien, beaucoup de choses là. Mais avec le programme pour la promotion de la culture de la paix dans mon école. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et ça a aidé l'école en général. Et surtout, les deux tribus qui ne s'attendaient pas. Au fur et à mesure, avec cette activité, nous sommes en train d'avancer.
Quelle méthode pédagogique utilisez-vous pour enseigner la paix aux élèves?
Lorsqu'on a reçu le programme, le partenaire ont exigé de former les clubs de paix, ce qu'on appelle autrement les comités de paix, qui est composé au moins de 12 enfants. Un chef d'établissement qui est comme le coordonnateur et un enseignant responsable. Les 12 enfants là, c'est depuis le degré moyen et le degré terminal, d'où 6 filles et 6 garçons. Ce sont eux les 12 qui sont les acteurs. Alors les 12 là sont les sensibilisateurs d'ailleurs. Les 12 sont formés par l'enseignant responsable du comité de paix. Parce que le partenaire forme l'enseignant et l'enseignant à son tour, il forme aussi ses 12 enfants. C'est les 12 enfants maintenant entrent dans les salles de classe, ils organisent aussi leurs activités, ils forment aussi, ils sensibilisent, il y a plusieurs méthodes. Il y a la sensibilisation, il y a des jeux qui aillent parallèlement avec la paix, il y a des activités parascolaires qui cadrent avec la paix.
Pouvez-vous partager des exemples d'activités ou des projets que vous avez menés pour promouvoir la paix en classe?
Oui, il y a plusieurs exemples. Au milieu scolaire, nous organisons des activités qu'on appelle les activités parascolaires. Ce sont les activités liées aux activités scolaires. Par exemple, le football, nous avons des écoles voisines. Là, il y a aussi les toits, les bantous. Et dans notre secteur ici, il y a presque dans toutes les écoles, il y a les clubs de paix, ou soit les comités de paix. Nous sommes en train d'organiser les activités qu'on appelle le football entre école et école, et le football interclasse ou soit interscolaire. Nous sélectionnons au moins 22 joueurs par match. Donc, 11 d'une équipe et 11 d'une équipe adversaire. Donc, les 11 là, nous essayons un peu de mixer, de mélanger entre les toits et les bantous. Dans les 11, on peut prendre 4 toits, 5 toits, 6 toits, selon l'aptitude, parce qu'avec le football, on échange. On peut prendre 4 toits, 6 bantous et un gardien. Et après, il y a des changes, nous changeons avec des toits comme ça. À part ça, pour les filles, nous organisons aussi des activités, des jeux de filles. Hein. On appelle les kangé, les jeux de gogo, les jeux de calico, beaucoup de jeux là de filles. Aussi, nous essayons de mixer les deux tribus, les toits et les bantous, pour créer juste la paix. En dehors de l'école, le 12, là, comme je vous ai dit au départ, comme l'équipe est constituée de 12, les animateurs de ces comités, nous descendons au niveau du village. Parce que la paix, là, n'est pas juste exigée au niveau de l'école, mais nous descendons aussi au niveau du village pour sensibiliser les toits et les bantous qui restent au village. Il y a des enfants qui ne sont pas au milieu scolaire, on les sensibilise. Nous organisons des activités de jeux, à part les jeux. Nous organisons des théâtres, hein, de mise en scène, là, qui cadrent juste avec la paix. Et au finish, vous vous rendez compte que les jeux là, ou soit le théâtre, se terminent par se mettre ensemble. Après l'échange, on est en paix.
Avez-vous observé des changements dans les comportements des élèves depuis l'introduction de l'éducation à la paix?
D'ailleurs, un grand changement en tant que chef d'établissement, parce que après mon observation, vous vous rendez compte que l'enfant qui ne voulait pas rester ensemble sur un banc comme le banc à trois élèves par banc, un enfant qui ne voulait pas se mettre ensemble avec un toit avec un muntu, mais actuellement je vous dis, vous allez voir un enfant qui vient à l'école, il prend même ses cahiers pour mettre dans un sac de son collègue, toi, muntu, il mixe comme ça. Il y a maintenant un bon climat. C'est pourquoi je suis en train de marteler sur la multiplication des formations. On ne peut pas laisser, parce que nous sommes censés de rappeler chaque fois, et même l'année qui commence ici, l'année de 2024-2025, nous allons fortifier et multiplier selon nos moyens au milieu scolaire, même si on ne peut pas avoir de financement, avec l'accompagnement du comité des parents, pour multiplier des activités de la paix.
Monsieur Augustin Moussambou Moukalaï, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Paulin Mounanga.
Merci à vous tous qui avez bien voulu suivre ce journal qui arrive à sa fin. C'était la grande édition de l'après-midi en langue française sur Radio Okapi. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi, mis en onde par Pierre Diassinois et Jean-Noël Mokondo. Le tout préparé et coordonné par Élisée Chikota. Je vous laisse en compagnie des autres programmes de Radio Okapi, le média de la paix.